Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Access sur Prune 92 FM, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, de midi à 13h, avec Alice, Anthony et Nelson. Alice et Anthony au micro et Nelson à la réalisation. L'émission Access, c'est l'émission inclusive qui propose, qui permet aux personnes responsables d'associations de lieux culturels de proposer de parler de leurs événements accessibles, inclusives, accessibles aux personnes en situation de handicap et personnes valides. Et aujourd'hui, notre invité est Paul Duclos du Musée Homme Histoire Naturelle de Nantes. Bonjour Paul.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors avec Paul, bien sûr, nous parlerons du musée Homme Histoire Naturelle et puis des dispositifs d'accessibilité et puis des nombreuses animations qui ont déjà commencé mais qui vont aussi avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Juste après, nous aurons la chronique d'Alice. Alice, donc, qui nous parlera des Jeux Olympiques et entre autres des dispositifs d'accessibilité qui ont eu lieu aussi bien au niveau télé qu'au niveau du pôle 2024 à Nantes. Alice, bonjour.
Bonjour Anthony, bonjour à tous. Effectivement, je parlerai un peu des Jeux Olympiques.
Voilà, donc ça, ce sera juste après l'interview. Donc, Paul, merci d'être avec nous pour aujourd'hui. Alors, Paul, tu es médiateur au Muséum Histoire Naturelle de Nantes. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste ton travail ?
Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation et la possibilité de parler des actions qu'on espère le plus accessible possible au muséum. Alors moi, je suis médiateur au muséum. Médiateur, c'est pas très joliment dit, mais ça veut dire moyen. Le médiateur, c'est un animateur hein, dans le monde des musées, mais pas que, et qui met en relation les collections, c'est-à-dire les spécimens dans un muséum d'histoire naturelle, les insectes naturalisés, les animaux naturalisés, les roches, etc., qui met en rapport les collections et les visiteurs pour faciliter la découverte de ces collections.
Paul, peux-tu nous présenter le Muséum Histoire Naturelle et ses différents dispositifs d'accessibilité ?
Oui, alors le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est un vieux grand-père, on va dire, hein, puisque le muséum que vous connaissez et dans lequel vous pouvez vous rendre aujourd'hui, c'est un bâtiment en partie de 1875. Donc on va bientôt fêter, si je ne suis pas trop mauvais en maths, les 150 ans. Et c'est un bâtiment qui a été fusionné, jumelé avec un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de la Monnaie parce qu'à un moment il a été trop petit. Et donc aujourd'hui au muséum, de mémoire, j'espère ne pas froisser les collègues, mais je crois qu'on a environ 3000 objets de collection qui sont présentés, un petit peu plus, un petit peu moins, m'en voulez pas si je me trompe, de 100 objets, enfin il y en a beaucoup. Et en termes d'accessibilité, on essaye principalement d'agir sur les expos temporaires, c'est-à-dire les expositions qu'on va monter pour 9 mois, 12 mois, 1 an et demi, etc. Parce que ce sont des expos qu'on peut concevoir en totalité au muséum. Et donc on a un œil assez attentif à ce qu'on retrouve un petit peu de langue des signes, un petit peu de tactile, un petit peu de facile à lire et à comprendre ou de français simplifié. Voilà, on essaye de satisfaire tous les publics. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaye. Et donc aujourd'hui au muséum, il y a plein d'offres accessibles. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Mais voilà, dans le général, dans l'idée générale, souvent on met l'accent sur les expos temporaires.
Alors, dans le document que tu m'as envoyé, j'ai pu lire en fait qu'il y avait de nombreuses animations accessibles jusqu'à la fin de l'année. Peux-tu nous les présenter ?
Oui, bien sûr. Alors, la première action dont j'avais envie de parler, c'est la mise en place d'un audio guide dans l'exposition temporaire qui s'appelle Trésors et biodiversité. Alors, cette expo, elle ne présente que des objets du muséum, puisque vous le savez peut-être, mais le muséum, il va fermer ses portes. C'est-à-dire qu'à l'été 2025, le muséum ferme pour quatre années de travaux annoncés. Ça veut dire que vous ne pourrez plus accéder au muséum tel que vous le connaissez aujourd'hui à partir de l'été, automne 2025. La date de fermeture n'est pas encore tout à fait fixée. Ça veut dire qu'on a essayé de mettre le paquet sur un audio guide qui présente un parcours audio décrit. Ça, c'est la première action. Le principe est simple. On est parti du constat avec plusieurs collègues que ça pouvait être intéressant pour une personne aveugle ou très malvoyante de pouvoir bénéficier du musée quand elle a envie, c'est-à-dire le dimanche au pied levé, si elle a, elle a la possibilité de venir, le mercredi, le jeudi. L'idée, c'était de proposer une offre en autonomie, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a enregistré, on a écrit, réalisé, enregistré un parcours en audio description. Il y a une dizaine d'objets qui sont tactiles dans l'expo Trésor et Biodiversité. Et donc, vous arrivez au muséum, vous pouvez prendre gratuitement cet audio guide. Il y a un audio guide et deux casques. Je reviendrai un peu sur les modalités. Et donc, vous partez pour 55 minutes de visite où on vous emmène en voyage à travers le monde à partir du 19e siècle à la découverte de certains objets qui sont en libre accès tactile dans l'exposition. Donc, on en fait une audio description précise. On s'est fait accompagner par Jérémy de Pickup Productions, que vous connaissez bien, sur les techniques d'audiodescription, et on a proposé plusieurs tests à des personnes d'Ossens qui ont eu la gentillesse, et on remercie Emma Retailleau ici, de venir tester, nous dire ce qui marchait point, pas, et on a ajusté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous venez tous les jours, de 10h à 18h, bon, sauf le mardi, on est fermé, hein, venez pas le mardi, la porte sera fermée, mais vous pouvez venir à n'importe quel moment entre 10h et 18h au muséum, vous demandez l'audio guide et vous avez 55 minutes d'une visite qui est pensée, conçue et adaptée pour les personnes aveugles. Alors il y a quand même une étape importante, qui est très importante, c'est qu'il faut être accompagné par une personne voyante. Je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous voulez, dans le muséum tel qu'il est aujourd'hui, avec les marchepieds, les meubles, l'absence de bande de guidage au sol, le bâtiment 19e, ce serait assez casse-cou de venir seul. Donc la limite, et j'ai bien conscience de cette limite, c'est qu'il faut pouvoir dans son entourage mobiliser une personne voyante qui va venir avec vous, avec le même audio guide, au même tempo que vous, partager un moment entre voyant et non-voyant de 55 minutes de découverte d'objets tactiles dans cette exposition Trésor et Biodiversité.
Alors Paul, on parlait justement du parcours audio décrit Trésor et Biodiversité. Tu nous as amené du coup des bandes de son pour nous faire, pour faire écouter à quoi ça donne, enfin à quoi correspondent les audio descriptions. Ça donnera sûrement envie à des personnes non et malvoyantes qui nous écoutent et à leurs accompagnateurs d'y venir. Alors on va passer une bande son comme ça donne pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que c'est que les audio descriptions dans ce parcours.
Oui, alors juste pour apporter un tout petit peu de contexte, là j'ai fait une coupure dans le fichier audio, donc effectivement vous prenez le parcours en plein milieu, ça n'a pas beaucoup de sens en termes de parcours. Là vous avez Karine, ma collègue de la médiathèque, qu'on a enregistrée et qui accompagne votre main dans la découverte d'un crâne de gorille, Gorilla Gorilla. Voilà, on est en plein milieu de deux descriptions, ça vous donne une idée du ton, du tempo et de la façon dont elle présente les choses.
Sentir une excroissance de quelques centimètres de hauteur qui parcourt le haut du crâne dans le sens de la longueur en partant du front et sur l'arrière. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de crêtes osseuses et pour être plus précis, de la crête sagittale sur le sommet et de la crête occipitale à l'arrière du crâne. Elles sont perpendiculaires au toucher et portent le nom de la plaque osseuse du crâne à laquelle elles sont attachées. Ces crêtes osseuses, que l'on retrouve aussi chez les chiens, les chats et d'autres mammifères, permettent une solide fixation des tendons et des muscles masticatoires, conférant ainsi au gorille mâle une forte pression de morsure. Bas, les deux trous sur la face sont les orbites où se trouvent les yeux. En descendant votre main vers le bas, vous trouverez la dentition du primate. Prenez le temps de la parcourir.
Voilà, et bien c'est une partie de ce que vous pourrez voir si vous venez du coup voir le parcours audio décrit, trésor et biodiversité, parcours pour personnes, audio guide qui est fait pour personnes non malvoyantes et personnes voyantes. Et comment sont choisies les animations et expositions pour le musée Homme Histoire Naturelle ?
Alors, les expos, généralement, en temps normal, bon là on va fermer, c'est un peu particulier, donc c'est une expo qui a été conçue 100% par le muséum d'histoire naturelle et l'équipe du muséum. En temps normal, on alterne une expo qu'on accueille qui a été conçue par exemple au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, je pense à l'expo Océan, que vous aviez peut-être eu l'occasion de découvrir.
Oui, on était allé la voir, on l'a visité. Oui.
Voilà, donc ça c'était une expo conçue par Paris. On a accueilli aussi l'expo Fourmi il y a maintenant assez longtemps, il y a peut-être 6 ou 7 ans, qui avait été conçue par le Muséum de Genève. On avait accueilli l'expo Araignée, toujours le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Donc en fait, on alterne grosso modo une année sur deux où on conçoit une exposition, parce que ça demande du temps, ça demande du travail, de l'investissement. Et l'année qui suit, on va accueillir une exposition qui est déjà faite et qui a été conçue par un autre muséum en France ou en Europe.
Mais, oui, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous choisissez cette exposition-là plutôt qu'une autre, par exemple, ou cette animation-là plutôt qu'une autre pour tel mois ? Est-ce que c'est par rapport à l'actualité des expositions ou parce que voilà, vous avez vu ça et puis vous avez une exposition, une animation et que vous dites tiens, ça serait bien de la mettre à ce moment-là ?
Eh ben, les deux. J'ai envie de te répondre les deux. Ça veut dire qu'à certains moments, on se dit tiens, il y a une exposition ou là, on est sur de l'actualité. On avait proposé une exposition Intelligence en 2021, Intelligence différente par nature, qui présentait ce qu'on appelle l'intelligence. Alors c'est un mot qui est assez difficile à définir, parce qu'en sciences naturelles, on s'est accordé sur la définition suivante. L'intelligence animale, ou entre guillemets, et je mets des guillemets, végétale, c'est la capacité pour un organisme à résoudre un problème dans un environnement donné. Et là, effectivement, il y avait des recherches sur le cerveau, il y avait des recherches sur l'intelligence sociale des insectes, et on s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir concevoir une expo qui parle d'actualité scientifique, du moins des dernières recherches. Donc ça, c'est le cas d'Intelligence, qu'on a accueilli il y a quelques années. Et il y a d'autres expos, on les accueille parce qu'elles sont bien conçues, bien pensées, on le pense qu'elles vont plaire aux visiteurs qu'on accueille actuellement. Quand on fait le choix d'accueillir l'expo araignée, on se doute bien que tout le monde n'est pas fan des araignées. Mais justement, c'était le but, c'était de désensibiliser par rapport à ces petites bêtes et d'apporter des contenus qui permettent aux visiteurs de sortir de la visite en disant « Ok, j'ai peut-être un peu moins peur des araignées, je comprends comment elles vivent, peut-être que je vais arrêter de les écraser systématiquement dans la maison. » Et c'était un peu le but, il n'y avait pas forcément de lien avec l'actualité, hein, les araignées sont là depuis... plusieurs dizaines voire centaines de millions d'années. Donc l'idée c'était pas d'avoir un lien avec l'actualité, mais plutôt d'avoir une expo dont on pensait qu'elle serait intéressante pour les visiteurs.
Et tout à l'heure donc tu nous parlais du coup de l'exposition, enfin du nouveau dispositif là pour l'exposition Trésors et biodiversité. Est-ce que tu as des retours de personnes voyantes et non-voyantes sur du coup, le fait qu'ils soient allés, eux, sans médiateur, qu'ils aient pu, des échanges qu'ils ont pu avoir. Est-ce que tu as des retours de ça, des personnes voyantes et non-voyantes ?
Ouais, c'est un audio-guide. Donc au passage, c'est un audio-guide que vous connaissez, c'est le même que celui du Château des Ducs. Donc c'est le même modèle. Donc pour ceux qui connaissent le Château des Ducs, vous ne serez pas perdus. Les retours sont plutôt positifs. Ce qui est positif, en fait, je trouve, et des retours qui nous en ont été faits, c'est qu'on peut venir au muséum un peu quand ça nous chante. Alors évidemment, il y a les problèmes de transport, qu'on connaît bien. Évidemment, il y a la problématique de trouver un accompagnateur. Mais ça veut dire que on peut venir à tout moment. Et je pense que c'est ça qui est apprécié. À la fois, la qualité du parcours. Ça veut dire qu'on passe d'un objet à un autre et il y a des pauses dans le parcours. On va faire crâne de gorille, on touche des météorites, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors on se dit, c'est un caillou, ok, mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte que ce caillou, il vient du système solaire, il a traversé l'atmosphère. Donc petit à petit, on vous emmène à travers environ 11 étapes dans ce parcours-là. Et c'est ça qui est apprécié, je pense, pour le moment. Premièrement, et ce qui est aussi apprécié, c'est la possibilité d'avoir un binôme voyant-non-voyant. Et de passer une heure ensemble autour d'un même sujet. Et ça, je pense que c'est un moment de convivialité, de partage, qui n'est pas inintéressant dans la démarche. Voilà, je vous invite, évidemment, à venir le découvrir et l'essayer.
Et du coup, parce que c'est vrai que, est-ce que par exemple, il y a des médiateurs qui portent, si on a besoin, d'après cette visite, d'un complément d'information ? Parce que, bon, bien que j'imagine bien que c'est bien, bien noté d'écrit, mais après, des fois, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir besoin de questions. Est-ce qu'il y a des médiateurs à qui, quand même, on peut poser des questions à la fin de l'exposition, si on en a ou...
Oui, bah, j'ai des collègues en salle. Qui peuvent répondre, des chargés d'accueil qui peuvent répondre à certaines questions, alors peut-être pas tous les objets, il y en a 300 dans l'expo au total, dont des tout petits, hein, on a de tout petits insectes. Donc certains collègues peuvent répondre, et puis ça me permet, ta question, de rebondir aussi sur autre chose, c'est qu'on va, deuxième proposition, on a été un peu absent les 6 premiers mois de l'année 2024 parce qu'on a fait un gros travail d'écriture, de conception, de cette audio-description disponible sur AudioGuide gratuitement à l'accueil. Et là, on va reprendre, à partir de la rentrée, je vais reproposer au mois de septembre aux associations qui le souhaitent, de revenir en groupe constitué là pour faire des visites guidées. Ça veut dire que s'il y a des questions de complément ou si vous voulez une autre approche de la visite que celle de l'autonomie et du binôme voyant-non-voyant, vous aurez la possibilité de venir dans l'expo, la visiter. Je ferai les visites et puis après, bah, je pense que vous connaissez bien le format, hein, c'est-à-dire on est 5-6, en binôme ça fait une dizaine de personnes grosso modo, et puis on prend une heure et quart avec l'asso, et les visites sont maintenant gratuites pour les associations. On s'est aligné sur la tarification Nantes Métropole qui est pratiquée au musée d'art, hein, par exemple, donc ça veut dire que l'asso réserve, c'est gratuit, les membres de l'asso, quelles qu'elles soient, s'inscrivent pour cette visite sur un créneau dédié. Et là, on fait une visite au format que vous connaissez bien, c'est-à-dire je présente chacun des objets que vous allez toucher. Ça peut être complémentaire si jamais il y avait des questions.
On va écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview de Paul pour le Muséum Histoire Naturelle. Alors Nelson, qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter la dernière chanson de Philippe Catherine, Sous mon Bob.
C'est où Philippe, là ?
Ben, je suis sous mon Bob.
Je me crois pérenne en marchant sur le globe.
Access, de midi à 13h, sur Prune.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access 92 FM sur Prune. Et donc, nous sommes toujours avec notre invité, Paul Duclos, du Musée Homme Histoire Naturelle de Nantes. Alors, tout à l'heure, Paul, on parlait des propositions. Et du coup, dans le document que tu m'as envoyé, j'ai vu une proposition qu'on voyait dans très peu d'endroits. C'est des propositions, en fait, pour les jeunes enfants. Je crois que des propositions pour les jeunes enfants. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, tout à fait. On va proposer à plusieurs reprises. Je ne vous donne pas forcément les dates et les heures ici parce que y a le site internet et je laisserai mes coordonnées si vous voulez qu'on se joigne directement. Ce sera peut-être plus simple. Mais on va proposer à plusieurs reprises d'ici à la fin de l'année ce qu'on appelle les histoires à toucher. Alors, les histoires à toucher, à la base, j'avais rencontré la maman d'une petite... aveugle en formation qui me disait il y a plein de choses de faites pour les adultes et c'est très bien, mais pour les petits qui sont aveugles de naissance ou devenus très rapidement aveugles, j'ai du mal à trouver des animations adaptées. Et c'est vrai qu'en faisant un peu le tour des propositions, c'était pas forcément évident d'en trouver, donc je m'étais posé la question et en 2023 j'avais commencé à lancer des temps du conte tactile, c'est-à-dire des contes, on raconte une histoire, la famille est présente, parents, enfants. On est le dimanche matin, c'est plutôt on se réveille, on prend son café tranquille, on vient au muséum. J'ai pas mis ça directement en se levant, hein, je regarde l'horaire, mais on est à 10h30, ça vous laisse le temps d'émerger tranquille. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer un temps du conte où on a une histoire et plein d'éléments sensoriels qui viennent compléter l'histoire. Évidemment, des choses à toucher, puisqu'à l'origine, ces contes ils étaient plutôt destinés aux petits déficients visuels. Et aussi des choses à écouter. Et par extension, je me suis dit que tous les enfants qui souffrent de troubles, quels qu'ils soient, du comportement, de compréhension, évidemment, des troubles de la vision, finalement, ils étaient les bienvenus parce qu'on passe une petite heure ensemble, 45 minutes, une petite heure, à lire des histoires qui finalement peuvent concerner tous les enfants. Et à faire des petits allers-retours dans la galerie de zoologie notamment, parce que c'est souvent sur les animaux, hein, c'est ce qui marche bien avec les petits, et je les comprends. Donc effectivement, on propose certains dimanches matins, à l'automne, là, à la rentrée, de vous accueillir au muséum à partir de 10h30. Alors il faut réserver, hein, ça se passe en ligne sur le site du muséum, ou par téléphone, ou avec mon mail. Enfin, vous allez trouver ces ressources-là assez facilement, sinon je les laisserai, tu me diras, Anthony. Et donc, l'idée, c'est de passer une heure dans un format souple, parents-enfants, autour d'une histoire, en lien avec l'histoire naturelle, évidemment.
Et les retours de cette initiative, c'est plutôt positif ? Est-ce que du coup c'est bien compris ? Est-ce que des fois il y a des demandes d'informations ? Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui y vient ?
Alors de toute façon, on est quand même sur des animations et des habitudes de fréquenter ce type d'animation qui sont peut-être pas encore tout à fait ancrées. Donc il faut le temps que le message se diffuse et c'est tout l'intérêt de votre émission. Mais il faut que les parents, avec le temps. Arrive à se dire, c'est pas parce que j'ai un enfant qui présente des différences qu'il y a rien de conçu pour lui. Et donc, il faut que le temps que ce message passe un peu. Donc, sur la fréquentation, évidemment, je vais pas te dire que j'ai accueilli 4500 enfants souffrant de troubles l'année dernière. Ce serait mentir, ce serait pas vrai. On accueille des petits groupes de familles, 5, 6, 7, 8 personnes. L'idée, c'est de proposer et de voir comment ça fonctionne. Pourquoi j'ai élargi à tout type de troubles ? Parce que, effectivement, si je ne propose que des activités aux enfants déficients visuels, je suis vite un peu limité, et c'est quand même pas mal de travail de préparation. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir préparer sérieusement et de proposer cette animation et de ne pas l'annuler parce qu'il n'y a personne. Donc pour le moment, on est là-dessus, c'est-à-dire entre 5 et 10 personnes, adultes et enfants mélangés, et environ une heure d'animation où on va, je raconte l'histoire, on écoute des sons, on touche des objets. La dernière fois, on avait une histoire avec un lapin qui vole des légumes dans le potager, donc on a fait à peu près tous les légumes du potager. Mais c'était un super moment.
Et comment les personnes en situation de handicap sont-elles informées de toutes ces animations dont tu nous as parlé ?
Eh ben, toujours un peu difficilement, hein. On connaît bien la difficulté du passage de l'info. Moi, je fais des envois de mails. Alors, je ne sais pas s'ils arrivent tous, s'ils sont tous ouverts. J'essaye de faire des envois de mails réguliers. J'essaye d'inclure ces propositions lorsque le calendrier correspond dans un catalogue d'offres accessibles que vous connaissez bien, qui est celui de l'offre culturelle accessible, pilotée par la ville de Nantes. C'est un document en braille, en gros caractères. Qui est proposé voilà, aux associations notamment, mais qui relaye à leurs adhérents, c'est-à-dire aux individuels finalement, les propositions. Ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, il faudrait que je programme un an à l'avance pour être dans le document. Et ce n'est pas toujours très évident. On peut avoir une idée en cours d'année et décider de ne pas l'abandonner parce qu'on ne pourra pas l'inclure dans le catalogue. Donc c'est vrai que ça m'arrive de programmer des animations qui ne sont pas dans ce catalogue. Donc j'essaye de trouver d'autres canaux. C'est beaucoup le mail. Voilà, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur les associations qui relayent aussi auprès de leurs adhérents. Je fais appel aussi aux professionnels d'Ausens, qui sont souvent des bons relais, hein, parce qu'ils peuvent accueillir des jeunes, évidemment, et donc voilà, ils passent l'information. Alors c'est vrai qu'au début, je faisais le tour des cabinets d'ergothérapeutes, et puis j'ai un petit peu arrêté, parce que ça demande un travail très conséquent, il faut envoyer je ne sais pas combien de dizaines de mails, joindre les personnes par téléphone. On essaie de diffuser du mieux qu'on peut, c'est pas parfait, mais on avance.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à l'accessibilité ?
Alors moi, je dirais que la première chose, c'est une formation que j'ai faite en 2011, donc ça remonte un peu, hein, c'est pas loin de 15 ans. J'ai fait une formation générale sur tous les types de handicap dans le cadre de mon travail de médiateur, on en parlait en début d'émission, et comment on peut rendre accessible des animations à des personnes qui présentent des troubles. Et donc j'avais fait cette formation, j'avais trouvé ça intéressant, et j'avais mobilisé un IME, un institut médico-éducatif, dans l'ancien musée où je travaillais, avec qui on avait mené à l'année des séances où je voyais toutes les semaines, toutes les deux semaines, les jeunes de cet IME avec qui on réalisait des travaux d'art plastique, d'art visuel. Et c'était vraiment, ça fait partie de mes meilleures expériences d'animateur, parce que c'est des jeunes que je voyais, voilà, on s'appelait par nos prénoms, on se connaissait, à la fin il y avait une vraie proximité qui était intéressante. Et c'est ça qui m'a donné envie de basculer de la médiation généraliste, c'est pas très joliment dit, mais plus généraliste, on va dire, à la médiation un peu spécialisée autour du handicap.
Et du coup, les jeunes qui étaient dans cette IME-là, c'était tout handicap ou c'était...
Oui, il y avait des troubles mobilité, compréhension, des troubles cognitifs. Les jeunes qui sont accueillis en IME, généralement, on a régulièrement des situations de polyhandicap. Alors, ils étaient quand même relativement autonomes parce qu'ils se déplaçaient de l'IME directement au musée, ce qui n'est pas toujours évident. Mais effectivement, il y avait des troubles. Et puis moi, je ne suis pas dans la confidence médicale parce que mon travail, c'est... c'est animateur. Moi, je ne suis pas ni éducateur, ni enseignant, ni soignant, évidemment. Donc, je ne connaissais pas toutes les pathologies, et puis je n'avais pas à les connaître. Mais oui, il y avait des situations de polyhandicap.
As-tu des liens et des contacts avec des musées de d'autres villes pour des échanges de pratiques et d'expériences sur l'accessibilité ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a le réseau nantais, que vous connaissez bien. Et que les associations connaissent bien. Donc ça se passe à Nantes. Je ne sais pas si je vais revenir dessus, parce que j'imagine que vous l'avez déjà présenté plusieurs fois. Avec d'autres musées, oui, ce n'est pas un réseau officiel où on va se réunir trois fois par an et échanger les bonnes pratiques. C'est plutôt des coups de téléphone et des mails à des collègues qui vont être à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Grenoble, et avec qui on va se dire « Tiens, j'ai essayé ça, je voulais t'en parler, ça fonctionne bien. » Ou des collègues qui vont me solliciter en me disant « Qu'est-ce que tu penses de ce modèle d'audio guide ? Est-ce qu'il est adapté ? Est-ce qu'il n'est pas adapté ?» Donc c'est plutôt un réseau informel.
Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner par exemple des villes, d'autres villes que Nantes, où il y a des musées avec des dispositifs comme qui ressemblent un petit peu à ce que tu fais au muséum ?
Ah oui, 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 tout à fait. Y a une ville qui est assez en pointe là-dessus, c'est Toulouse. Qui est assez en pointe sur tout ce qui est accessibilité dans l'espace public, la circulation, donc là, le côté pratique circulation, mais qui est aussi assez en avance sur eh bien, la mise en accessibilité des expositions dans les musées. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, vous avez plusieurs personnes qui sont spécialisées sur l'accessibilité handicap dans le muséum. Bon, alors qui est plus gros que le Muséum de Nantes, en termes d'accueil de visiteurs, et puis c'est un gros muséum. Mais effectivement, Toulouse, moi, c'est la référence qui me viendrait un peu immédiatement, je dirais, en tête, si on veut ne pas parler de Paris, puisqu'évidemment, Paris, gros musée, gros moyen, nécessairement. Je pense à la Cité des sciences et de l'industrie, au Muséum national d'histoire naturelle. Quand ils pensent une expo au Muséum national d'histoire naturelle, les maquettes... Enfin, il y a quand même voilà, un volet accessibilité qui est déjà assez poussé.
Et observes-tu des changements de regard et de mentalité concernant l'accessibilité et le handicap ?
Pour moi, c'est difficile à mesurer parce que ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là et c'est vrai que j'ai toujours été un peu, j'espère, porteur et acteur de mise en accessibilité des musées. Je pense qu'il y a des réticences qui se lèvent un peu. On parlait tout à l'heure de trésors et biodiversité, des collections. J'ai des collègues chargés de collections avec qui je travaille, en sciences de la terre ou en sciences de la vie, qui sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui au fait que je leur dise bah, « Tiens, est-ce que ce squelette, on est vraiment obligé de le mettre sous vitrine ou est-ce qu'on ne peut pas le laisser en accès libre et le toucher un peu ?» Il y a 30 ans de ça ou il y a 20 ans de ça, j'aurais proposé ça, on m'aurait dit « Non, mais t'es fou, on ne fait pas ça, il faut préserver. » Aujourd'hui, je sens que ça change. Ça veut dire que j'ai des collègues jeunes qui sont ouverts quand c'est possible, hein, parce que l'émission d'un muséum, c'est aussi de conserver les objets et d'un musée de façon générale, de façon à ce que dans 200 ou 300 ans, on puisse encore les avoir. Donc si on les présente au toucher, si on les casse, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, quand c'est possible, je sens qu'il y a une vraie ouverture là-dessus dans les professionnels du muséum. Alors je ne sais pas si c'est valable partout en France, en tout cas au Muséum de Nantes, il y a une oreille attentive, c'est-à-dire, tiens... mon collègue Denis Demarc, qui est en charge des collections de géologie et de paléontologie, si je lui dis, je ne sais pas, ce granit, est-ce qu'on peut le laisser en accès libre ? Je sais qu'il n'y a pas de problème. Dans l'expo Trésors et biodiversité, on a trois petits objets, âge de pierre, âge du bronze, âge du fer. La question ne s'est même pas posée, c'est-à-dire on s'est dit, bah ouais, on les laisse en accès libre. C'est-à-dire que les enfants, tous les publics, hein, ça concerne tout le monde, et bah, ils peuvent toucher ces objets dans l'expo. Il y a 20 ans, je ne sais pas si on aurait fait ça. Donc oui, ça change, et ça va dans le bon sens.
Paul, as-tu une anecdote ou un moment marquant que tu aurais envie de nous partager ?
Waouh ! Sur le muséum ?
Sur le muséum, oui, sur le muséum, quelque chose qui, ouais, je sais pas, quelque chose qui a pu te marquer, un moment qui a pu te marquer.
Ah ben, y a plein d'accueils de groupe qui ont été marquants. C'est difficile, je n'ai pas préparé, cette question, tu me prends de court. Mais c'est bien, je vais essayer de trouver un événement marquant. Si, un événement professionnel un peu marquant, un peu anecdotique peut-être pour les visiteurs, mais comme c'est une question perso, je vais essayer de répondre de façon perso. Quand je suis arrivé au muséum en 2016, on avait une banque d'accueil qui était un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qui n'était pas vraiment adapté à la fois aux collègues et aux visiteurs qui arrivaient. Je pense aux personnes qui circulaient en fauteuil. On était 70 cm plus haut qu'elles, on les regardait d'en haut, elles ne nous voyaient pas, enfin, c'était assez peu adapté. Et il y a eu un gros chantier qui a été mené en 2019-2020 et on a complètement refondu l'accueil du muséum, qui fait que voilà, les enfants, les personnes en situation de handicap, tout type de public qui trouve son compte. Alors c'est vrai que quand je dis ça, c'est pas hyper glamour et marquant, mais en fait ça change quand même beaucoup la façon dont on accueille les visiteurs quand ils poussent la porte d'entrée et qu'ils rentrent. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change complètement notre accueil. Donc pour moi, au pied levé comme ça, je dirais que ça c'est un événement un peu marquant dans notre capacité à mieux accueillir les gens dans un musée.
Oui, donc en fait, c'était une bande de guidage, c'est ça, ce qui était mal...
Non, en fait, avant, on avait vraiment un espèce de grand bureau, de grand plan de travail, très haut, ouvert un peu à tous les vents, où les gens rentraient, faisaient la queue dans de mauvaises conditions, on ne s'entendait pas parce qu'il y avait beaucoup de bruit. L'hiver, il faisait froid, l'été, il faisait chaud. Et on est passé à un accueil qui a été entièrement pensé par les services de Nantes Métropole, qui est adapté pour les personnes qui circulent en fauteuil, qui est adapté pour tous les visiteurs. Et c'est vrai que quand on se dit c'est insignifiant, mais c'est un chantier de plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on a recréé un kiosque en fer, en métal et en verre, dans lequel aujourd'hui, quand on arrive au muséum, ça n'a rien à voir en termes de confort, quoi.
Et quel conseil tu donnerais à une personne qui s'intéresse à l'accessibilité et qui voudrait faire le même travail que toi ?
Eh bien, je lui conseillerais de... Le premier conseil, ce serait peut-être de tenir bon, c'est-à-dire que ça prend du temps pour un musée. Je ne parle pas de moi, ce n'est pas ça qui est important, mais je trouve que ça prend du temps pour un musée d'être reconnu comme une structure accueillante pour les personnes en situation de handicap. Ça ne se fait pas en 15 jours. Donc il faut persévérer un petit peu, il faut travailler en réseau, et on en a déjà parlé plusieurs fois, avec les acteurs du coin, qu'est-ce qu'on peut se prêter, qu'est-ce qu'on peut échanger comme bonne pratique. Faut être curieux des nouveautés, voilà, des nouveautés dans le secteur, dans le champ du handicap. Hein. Il y a le salon autonomique que vous connaissez peut-être, qui propose plein de nouveautés. Donc voilà, il faut être curieux là-dessus. Voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais, mais je ne sais pas si j'ai des conseils à donner beaucoup plus que ça, quoi.
Et comment peut-on te contacter si on veut, pour tout renseignement sur tout renseignement et toute ressource sur l'accessibilité, ou pour organiser des visites au Muséum Histoire Naturelle ?
Il y a trois façons. Pour les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent, vous pouvez vous rendre sur le site internet du muséum, sur lequel, dans les onglets accessibilité, donc vous retrouverez les pictogrammes handicap en haut à gauche du site. Quand on tabule, ça arrive en premier. Je pense à l'onglet déficient visuel, quand vous tabulez. Alors le tout, c'est de circuler dans le moteur de recherche, ça c'est un autre problème. Mais vous allez trouver des informations sur le site internet. Sinon, beaucoup plus simple, vous pouvez m'écrire un mail à paul.duclos@nantesmétropole.fr, sans accent, sans majuscule. Et bien sûr, vous pouvez m'appeler. Alors je suis pas toujours très facilement joignable, parce que si je suis pas dans mon bureau, des fois je suis en animation. Et vous pouvez m'appeler au 02 40 41 55 05. Si d'aventure je ne suis pas là, soit vous me laissez un message et je vous rappelle, soit vous contactez mes collègues à l'accueil du muséum, et le numéro est le 02 40 41 55 00.
Eh bien, merci Paul d'être venu nous parler sur Prune du Muséum Histoire Naturelle et de tous ces dispositifs d'accessibilité, de toutes ces superbes animations que nous allons pouvoir voir au Musée Histoire Naturelle très prochainement. Merci Paul, à très bientôt.
Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de rajouter un tout petit complément ?
Ah, mais bien sûr.
Je voulais vous parler d'une action assez exceptionnelle qui aura lieu d'ici à la fin de l'année au Muséum. On parle de langue des signes française. Je pense qu'on peut en parler aussi un petit peu ici. J'espère ne pas être hors sujet.
Non, on peut en parler.
Le samedi 30 novembre 2024, l'association STEAM Sourds France organise son congrès annuel au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça veut dire que vous allez avoir plusieurs dizaines de jeunes sourds qui vont proposer des conférences en lien avec la science, virologie, efficacité énergétique, biologie marine, climatologie, etc., et qui font des conférences en langue des signes française. Ces conférences en langue des signes française, elles sont interprétées en français oral. Il y aura aussi un vélotypiste qui va taper les sous-titres en direct. Et donc c'est assez exceptionnel, je trouve, dans cet esprit d'ouverture, de pouvoir accueillir des jeunes sourds qui travaillent au CNRS, qui travaillent dans des laboratoires un peu partout en France, et qui proposent avec cette association STEAM Sourds d'enrichir le signière, c'est-à-dire le dictionnaire des signes en LSF, c'est-à-dire enrichir ce signaire de mots qui, pour le moment, n'ont pas d'équivalent en langue des signes. Quand on considère la science, il y en a plein, des mots qui permettent de briller en société. Très compliqué, il y en a plein. Et bien, leur boulot avec cette association, notamment, c'est de créer des signes qui n'existent pas et d'essayer de les diffuser pour qu'ils soient utilisés en langue des signes. Donc, on aura ce congrès-là. Voilà, n'hésitez pas à diffuser l'information. Les modalités seront bientôt sur le site internet du muséum. Je l'espère. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Et merci à Prune.
Eh bien, merci Paul d'être venu pour la troisième fois dans notre émission pour présenter le Muséum Histoire Naturelle et ses dispositifs d'accessibilité. On va écouter un morceau de musique et puis juste après, on écoutera la chronique Coup de cœur d'Alice. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Nelson ?
On va écouter À la nage de UTO.
La chronique pour partager un coup de cœur, vu ou entendu.
Tout de suite, on écoute la chronique d'Alice sur les Jeux Olympiques. Alice, c'est à toi.
Merci Anthony. Donc, cet été, on a eu la chance d'avoir les Jeux Olympiques. Et nous, personne en situation de handicap, entre autres, surtout visuel, on a eu le bonheur d'avoir sur le club 2024 dans Nantes, d'avoir pu participer et venir suivre les Jeux Olympiques comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, grâce à Jérémy et son équipe et l'équipe de Pick-up Productions, on a pu avoir deux journées, le samedi 27 juillet et le vendredi 9 août, de pouvoir suivre des matchs en audio description. Alors, il y avait du rugby, du volley, de la danse hip-hop. Tu m'arrêtes, hein, toi, si je ne me trompe pas. La danse hip-hop. De voir aussi des matchs de foot aussi en audio description, ça apporte beaucoup. De voir des concerts aussi. Et en parallèle de ça, à la télévision, France TV a fait très fort. On avait la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture en audio description sur France 2. Et on avait aussi tous les jours sur France 2, si on se mettait à 16h30, on pouvait voir des matchs ou des épreuves sportives en audio description, ce qui permettait de savoir c'était du judo, comment étaient les deux adversaires, ce qui pouvait se passer, ou même les scores, ou même...
Et est-ce que ça apporte beaucoup de descriptions lors de ces événements ? Est-ce que ça a été un plus, par exemple, pour toi, pour suivre ces différentes épreuves et sports ?
Oui, parce que c'est vrai que j'ai pu, moi, mieux me décrire ce qui se passe que quand on ne voit pas, si on regarde un match de tennis, par exemple, à part entendre les bruits de raquettes ou les sportifs poussaient un petit cri, on n'a pas grand-chose, on ne comprend pas. Après, il y a quand même les journalistes qui expliquent ce qui se passe, mais c'est un petit peu d'infos. Là, ça permet d'en avoir un peu plus.
Et est-ce que, par exemple, pour une personne non-voyante, qui n'en aurait pas de connaissances des sports, est-ce que l'audiodescription permet d'avoir des connaissances sur les sports ou c'est uniquement audiodécrire ce qui se passe à ces moments précis ?
Là, ils ont choisi plus audiodécrire ce qui se passait, parce que s'ils devaient expliquer comment se passe que ce soit le judo par exemple, où il y a plusieurs prises, s'ils devaient expliquer les prises par prise, je pense qu'il n'y aurait pas assez de temps et ça serait très long. Après, si on prend ce que fait Jérémy avec des ateliers en amont comme on a eu pour le rugby, ça permet de découvrir des actions, de découvrir un peu plus le sport et de se donner une idée supplémentaire.
Oui, parce que il y a eu des ateliers en amont aussi où on a pu. Parce que moi j'étais présent aussi à ces journées, à ces ateliers. Et c'est vrai que avant d'aller au Club 24, on a eu la chance, par exemple, le 24 juillet, d'avoir une initiation sur le break avec un breaker. Un b-boy qui était présent et qui nous a parlé du breaking, qui nous a même fait faire des danses debout. C'était vraiment super. C'est rare pour nous d'avoir cette opportunité. Et puis, entre autres, le 26 juillet, où on a pu avoir aussi une initiation avec des terrains tactiles pour le volleyball, pour le rugby. C'est vrai que quand on a des initiations comme ça, avant de voir les descriptions, ça permet vraiment de mieux comprendre, quand on connaît, on connaît, mais pour une personne non-voyante qui ne connaît pas, par exemple, tel sport, c'est vrai que de pouvoir avoir ces ateliers avant, c'est vrai que c'est vraiment un plus, quoi. Voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alice ?
Oui, je vais ajouter autre chose. Après, là, on va passer au para-olympique. France Télévision va remettre de l'audiodescription. Donc, ça serait intéressant de voir ce que ça donne. Voilà.
Et est-ce que pour les personnes voyantes, c'est parce que, bien sûr, les Paralympiques, ça donne... Est-ce que pour les personnes voyantes aussi, du coup, elles ont accès aussi à l'audiodescription, si elles veulent, par exemple, voir comment ça se fait
Sur la télé, oui, effectivement, si elles ont une télé ou même sur l'appli, sur le téléphone. Il y a possibilité de mettre l'audio description.
Eh bien, merci Alice de nous avoir pour cette chronique. Donc, on va écouter un morceau de musique. Donc, qu'est-ce qu'on écoute, Nelson ?
On écoute Variation sur trois bandes de Golden Bug avec The Liminianas.
Seules trois bandes sont leur sort. Il y a Christophe au soleil, Caroline et Vanessa, les portes marquées du lycée, sur les tables, des fresques ratées, au stylo billet marqueur noir, qui raconte nos exploits. Les mobilettes, Maria hurlait sous les fenêtres pour le baccalauréat. Des pains aussi, bonbons et Philippe, le tabac brun à rouler, zigzag, etc. Près des trois bancs, je vois ça. Je monte l'escalier et Vlad est là. Ma veste en jean, strychnine, un Iroquois, des perfecto. On sent la vache tenace. Le selfie le samedi, Modeste NKO, le tequila, l'appartement de Jérémy, la bagnole de Balona. Dans les toilettes, des sueurs froides. Une course poursuite, du moulin à vent au toit de l'université. Le bas d'un escalier. Un aérodateur par le balcon. Le café des sports. Chantal, Fernand qui sourit. Les expressos à crédit. Un cocktail de fruits vodka. Sur la plage. Le Mumba. Gloria et Guerilla. Dimanche matin, la guerre, le vin. Le piré. Les Hells Angels. L'estaminet. Le vin mauvais.
Sur Prune.
Eh bien voilà, l'émission Access se termine. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette émission que nous on a eu à l'animer. Je remercie Nelson pour la réalisation de cette émission. Je remercie Alice qui a co-animé cette émission avec moi pour avec la chronique. Je remercie également notre invité Paul Duclos qui est venu nous présenter le musée Homme Histoire Naturelle et les différents dispositifs d'accessibilité ainsi que toutes les animations accessibles qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Donc dans quelques instants, nous allons vous laisser avec la playlist de Prune. Nous vous souhaitons une excellente journée sur Prune. Et sachez que si vous avez raté à un moment de l'interview de Paul ou la chronique d'Alice, sachez que cette émission sera podcastée dans quelques semaines sur le site prune.net. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.